peut-être effectivement beaucoup de sujets différents. Hein, il était d'une curiosité intellectuelle et c'était un des premiers, je peux dire, malgré son âge, à être très très intéressé, puisque tu vois, tu disais, tu parlais de Raforum, à s'intéresser à Internet, à tout ce que ça représentait. Et vraiment, on a d'ailleurs fait un numéro de réfraction qui s'appelait sur Internet, un des premiers qu'on a fait. Et vraiment, Ronald, tu vois, c'est pour ça que quand je t'ai dit au début, ça m'a fait un choc, puis je me suis arrêté parce que, comme il est maintenant, il ne bouffait un peu de comment dirais-je. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi.
Oui, mais pour moi aussi, et ce que j'ai dit tout à l'heure et qui certainement me frappe par rapport à Ronald, c'est que on pouvait s'engueuler gentiment. C'était rare de pouvoir s'engueuler avec quelqu'un avec amitié.
Ah oui, lui avec lui. Jamais de rancune, on pouvait même, il acceptait les critiques, même parfois très vives.
Oui.
Et d'ailleurs, chaque fois qu'il faisait un texte, il nous l'envoyait, enfin nous, c'était son petit noyau, quoi. C'est-à-dire Daniel Haas, Didier et Marielle Giraud, notamment, John Clark aux États-Unis et moi, etc. Et on disait ce qu'on en pensait, ah oui, d'accord. Bon, il reprenait pas toujours tout ce qu'on lui disait en retour, mais il en tenait souvent compte.
Oui.
Et de toute façon, il le prenait tranquillement. Voilà,
oui,
il s'offusquait jamais. Et de ce côté-là, dans ce milieu, il faut quand même regarder que c'est assez rare, parce que pas mal de personnes, quand elles ont écrit un texte, elles croient que le texte, il est parfait, qu'il ne faut pas y retoucher. Ronald, c'était, on peut dire, exactement le contraire. Et on a vu, et on continuera, je pense, à lire sa production, qui est très importante, et qui restera.
Absolument, ça c'est important, et c'était... Comme tu as dit, c'était une personne qui était toujours à l'écoute.
Voilà, ouais, tout à fait.
Alors le sens de la hiérarchie, il ne connaissait pas.
Ouais, pas du tout. Et bon, je ne sais pas si tu as parlé un peu de son autobiographie et de ce qu'il a été à un moment donné. Mais c'est vrai, comment dire, il a rencontré en lieu l'anarchisme après 68. Hein, et il a plus quitté, quoi. Voilà, il a plus quitté. Mais sous ses diverses formes, c'est pour ça qu'il a rejoint d'autant plus facilement Réfraction, que Réfraction, c'est une revue justement de recherche et d'expression au pluriel anarchiste. Et c'est toujours ça qui l'a intéressé. Aucun dogme, quel qu'il soit. Il était assez iconoclaste, voilà, également.
Oui, tout à fait.
Et donc, c'est important d'avoir une espèce de, comment dirais-je, de pic sans arrêt pour dire, écoutez, l'anarchisme, d'accord, l'anarchie historique, c'est très important, mais on vit maintenant au 21e siècle, on vit dans un monde internationalisé, avec tout ce qui se passe, c'est pas évident, il faut tenir compte de ça, à la fois sur le plan politique, au bon sens du terme, en même temps au point de vue social et dans la vie de tous les jours. Donc, essayer de trouver le joint, ce qu'on essaie de faire dans Réfraction, justement, entre l'envie, effectivement, que le monde change, en même temps que nous-mêmes, on change.
Et ce qui était formidable chez lui, c'est qu'il avait évidemment des convictions profondes et beaucoup de curiosité, mais pas de certitude.
Non, 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 c'est vrai. Et ça, je pense que c'est peut-être lié à son parcours, qui fait que, bon, comme il a eu envie, la foi à un moment donné, et il s'en est sorti, si on peut dire, arrivé à une quarantaine d'années, et il n'a pas voulu retomber dans une autre foi, quelle qu'elle soit. Donc, il a pris l'anarchisme sur lequel il a beaucoup travaillé au départ par rapport aux États-Unis. Beaucoup de gens, d'ailleurs, croyaient que Ronald était américain, alors qu'en fait, non, il est anglais, je te l'ai peut-être dit, hein, né à Port Saïd en Égypte, hein, avec plutôt d'ailleurs des ascendances siciliennes par son côté maternel. Mais il se trouve qu'il a fait effectivement sa thèse de lettres sur l'histoire de l'anarchisme aux États-Unis, et c'est ce qui a été marquant, puisque surtout après, eh ben, il a écrit des grands classiques sur l'affaire Sacco et Vanzetti. Il a écrit également sur les communautés libertaires françaises, notamment aux États-Unis, etc. Puis après, évidemment, son grand homme, si on peut dire, s'il y avait un grand homme, lui, c'est plutôt Élisée Reclus.
Tout à fait, puisqu'il a même écrit un bouquin sur Élisée Reclus aux États-Unis.
Voilà, plus il a publié les lettres à Clarisse.
Exact.
Et nous-mêmes, à Réfraction, on a fait un colloque, numéro 4 de Réfraction, qui était consacré à Élisée Reclus. Et il a fait un colloque sur Élisée Reclus à l'Université de Montpellier en 2005 de mémoire.
Voilà. Bon, on en reparlera n'importe comment, et puis on en reparlera, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 30 septembre, puisque ça sera une partie des Chroniques Rebelles qui dure 4 heures, ce 30 septembre, et bien sera consacré, les 4 heures seront consacrées en partie, aux 25 ans de Réfraction. Et évidemment, Ronald, comme il en faisait partie depuis l'origine...
Absolument, c'est un des cofondateurs avec moi et d'autres.
Voilà.
Et alors, ce que, juste on peut dire que Réfraction, qui a été créé donc en 1996, on était 20 au départ. Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, on est toujours 20.
Oui, et ça continue.
Et ça continue de plus belle. Et justement, nous, enfin, nous les anciens, eh bien, on est en train de passer le relais. Et il y a, disons... au moins 7 à 8 personnes maintenant à Réfraction qui ont moins de 45 ans et qui sont en train de prendre la relève, effectivement, des anciens que nous sommes. Et le passage se fait en douceur et en toute sérénité. Et donc, cette revue peut être avec d'autres horizons, mais elle va continuer.
Absolument. Ben, ça sera le mot de la fin et ça sera vraiment une manière aussi de dire que ben, Ronald est toujours avec nous. Hein.
Toujours, toujours.
La semaine prochaine, nous parlerons d'un livre de Martin Senevitz qui est paru chez Lux et qui a pour titre « E-Market », tu vois, on ne sort pas des États-Unis, « Récit des origines du 1er mai ». Nous parlerons également notamment de plusieurs films, notamment donc le film de Radu Jude, N'attendez pas trop de la fin du monde. Je suis sûre que ça aurait plu à Ronald, ça. Évidemment, la rétrospective de Louis Malle et de ses films aux États-Unis, oui. Puisqu'il y a 3 films qui ont été faits et qui sont très importants, dont My Dinner with André, par exemple, mais pas que. Et puis 2 films de Mila Tourajli que nous avions évidemment reçus dans les Chroniques Rebelles sur un cinéma critique, un cinéma documentaire critique avec 2 films non alignés et Ciné Guérilla. Très très bonne semaine et comme d'habitude bien sûr, eh bien, tenez bon.
€20. Ah non, mais j'ai tellement l'habitude de couper l'annonce de la carte d'auditeur en précisant 20 euros au lieu de je ne sais plus combien, 100 francs, que là je l'ai fait sur la musique du générique des Chroniques Rebelles.
Séduit par une voiture 1900 qu'il venait d'acheter, Luc, épaté, cassa ce tape-cul. Luc, épaté, cassa ce tape-cul. Bah, il faut dire qu'il avait fait un festin bien arrosé. Alors, on l'a conduit à l'hôpital. Il était blessé. Et même là, et il a ergoté cet ogre alité. Et il a ergoté cet ogre alité. Yeah.
Et voilà, c'était un palindrome de Gérard Durand, comme à l'accoutumée, pour ouvrir ce magazine de Sous-de-Seine. De Sous-de-Seine, magazine de créatures radiophoniques, on va parler pas mal de théâtre aujourd'hui. Et je commence, comme à chaque fois, par quelques petits « je me souviens ». Je me souviens que dans le jardin du voisin de Manuel, il y avait au moins 19 nains en terre cuite, 5 moulins, 3 vieux vélos couverts de fleurs, 2 brouettes qui copulaient, 3 ponts dont un en Lego, 2 puits en pneus et une allée délimitée par des coquilles Saint-Jacques. Je me souviens du mont Gerbier des Joncs, du plateau de Langres et du plateau des Mille Vaches, et je me souviens même que je savais où les situer sur une carte de France et préciser leur altitude. Sinon, comment j'aurais eu mon brevet ? Je ne me souviens pas comment je faisais. Chaque fois que j'allais chez Jacques Roussel, chez lui, à Barbès, je me retrouvais toujours avec des cartons petit format de publicité pour des marabouts, amour, argent, fidélité, fortune, dans la main ou au fond des poches. Je me souviens de la mort de Clément Méric. Je me souviens du poulet aux hormones, du bisphénol, des nanoparticules, des phtalates, du pyralène, des transformateurs électriques. Je me souviens de Pierre Bénard, Louise Michel, La Vache Folle, Emma Goldman, Père Néry, Henri Poulaille, Élisée Reclus et même Frêne Anthony, groupe de la Fédération anarchiste. Je me souviens de Perdu, Chat noir et blanc, dans la nuit du 8 au 9 janvier, 8 mois, tatoué, s'appelant Belzébuth ou Glouch, mais ne répondant pas, il est trop con. Ça donnait envie de retrouver leur chat. Je me souviens d'au moins 3 fois où des proches, bien au courant de mes goûts littéraires, m'ont acheté un livre, un dictionnaire ou un disque que j'avais déjà acheté quelques mois auparavant, preuve qu'ils connaissaient mes goûts. Je me souviens de Auguste Collin, nom attrapé au hasard, sur le long monument aux morts de la guerre de 14 au cimetière du Père-Lachaise. Je me souviens des asphodèles, mirliflores, engoulevents, du boulingrinde, du capodastre, du lycaon, de la sinécure, des palimpsès, des micellanées, des tardigrades, des prolégomènes, des ergastules, des utricules, des zygophysées, des paltoquets, alors même que ça doit faire 3 mois que je n'ai pas utilisé le moindre de ces mots dans ma conversation. Je me souviens que pour les 75 ans de la vieille Suzanne, réunissant toute la famille, ils se sont organisés pour partir à 5 voitures jusqu'au restaurant où les tables avaient été réservées. Et c'est seulement là-bas qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié Suzanne à la maison. Je me souviens d'avoir appris à l'école un poème de Colette qui parlait de chat. Mais quand j'ai voulu prendre dans la bibliothèque Claudine à l'école, le titre ça sonnait comme des Martines, de Colette et Willy, ma mère m'a dit « on va attendre que tu sois plus grand ». Je me souviens que Dimitri avait retrouvé grâce à Internet où commander des ménéliques. Mais si, vous savez, les gaufrettes nappées de chocolat noir en forme de long triangle isocèle, le grand succès des cantines. Je me souviens quand il s'était exprimé en conférence de presse sur le suicide de Gabriel Russier, le président Pompidou avait cité quelques vers de Paul Éluard. Je me souviens de « Tu l'as dit, Bouffi ». Je me souviens que Samuel avait pris un taxi pour aller de Nation à République, mais n'ayant pas de monnaie sur lui, il avait dû se faire conduire par le chauffeur jusqu'à trouver un distributeur de billets compatible avec sa carte, distributeur qu'il n'avait trouvé qu'à Le Drurolin, quasiment finalement revenu à son point de départ.
Oui, les copains, venez vous rincer la gueule. Ce soir, je suis toute seule, il est mort ce matin. Ça fait rudement longtemps qu'on était tous les deux. Moi, j'avais 18 ans et lui dans les 22. Il m'a tout fait quitter, mon père et puis ma mère. C'était pour me faire goûter à toutes les misères. Oh, et les copains, venez vous rincer la gueule. Ce soir, je suis toute seule, il est mort ce matin. C'était un beau salaud, qu'en foutait pas une rame. Pour un verre de Pernod, l'aurait vendu son âme. Quand il était bien saoul, il tapait comme une brute. Il connaissait ses coups, on aurait dit de la lutte. Oh, et les copains, venez vous rincer la gueule. Ce soir, je suis toute seule, il est mort ce matin. Des fois il me trompait, ces choses-là ça m'écoeure. Et quand il revenait, il ronflait 24 heures. Pourtant il y avait des jours, ça c'était une merveille. Il me parlait d'amour quand je rapportais ma paye. Oh et les copains, venez vous rincer la gueule. Ce soir je suis toute seule, il est mort ce matin. Je ne sais pas ce qu'il y a, c'est pourtant pas normal. Rien que de parler de tout ça, j'ai le cœur qui fait mal. Ça c'est vraiment marrant, il y a comme quelque chose qui cloche. C'est quand j'ai eu 20 ans, il m'a donné cette broche. Oh et les copains, venez vous rincer la gueule. Ce soir je suis toute seule, il est mort ce matin.
Au théâtre, on se permet de faire des rappels, en radio on le fait aussi, une piqûre de rappel. Isabelle Sprung, qui était notre invitée la semaine dernière pour son spectacle sur Sarah Bernhardt, interprétant ici le répertoire de Fréhel, Damia, Oé, Les Copains. Radio Libertaire, dessous de scène magazine de créatures radiophoniques. On va causer beaucoup théâtre aujourd'hui, Evelyne ?
Oui, oui, effectivement, oui. Et théâtre au féminin, puisque aujourd'hui nous avons pour invité trois comédiennes. Deux pour un spectacle qui s'appelle La Nostalgie des Blattes. Alors je sais pas qui a La Nostalgie des Blattes, moi personnellement pas, mais c'est rigolo comme titre quand même, voilà. Et puis nous avons aussi Sylvie Van Cleven, alors je sais pas si je prononce bien parce que...
Très bien.
D'accord, pour Je vous écris dans le noir. Alors, c'est vrai que le titre... Alors c'est, et puis, il y a Anne, hein, qui fait sa rubrique de voilà, théâtre, etc.
Bonjour.
Il y aura un poème dit par Jean-Marie Blanche, Les Vieux Chagrins, de Cosimon. Et puis, tout à la fin, je pense que Rémi Carnoc va nous rendre visite pour nous parler de ses dernières créations. Voilà. C'est un musicien. Alors, Je vous écris dans le noir, c'est un texte de... Jean-Luc Seigle,
oui.
Voilà. Et alors, d'après le synopsis, on pourrait penser que c'est un remake d'un film de Clouzot, oui. La vérité avec Brigitte Bardot, mais quand on voit le spectacle, on se dit que ça n'a en fait aucun rapport. Et pourtant, la personne qui a inspiré le texte Je vous écris dans le noir, c'est Pauline Dubuisson. Dans les années 50, qui a tué un homme, son amant, hein, c'était son amant, et en sous-titre du spectacle, il est écrit « Je m'appelle Pauline Dubuisson et j'ai tué un homme, mais personne n'est assassin. » Voilà. Alors, je vous laisse, Sylvie, présenter le spectacle, puisque vous en êtes le... l'interprète.
Oui.
Et bon, ben, Anne ne l'a pas vu, elle n'a pas pu le voir, mais elle ira le voir. C'est vrai que à l'issue du spectacle, on en sort assez bouleversé. Moi, j'ai été bouleversée. Alors après, vous avez dit, on peut se réunir, on peut parler. Moi, j'étais trop touchée pour tout de suite rentrer dans le débat. C'est vrai, ça m'a touchée. Alors, il faut dire que l'histoire de cette femme est quand même particulièrement horrible, enfin terrible. Et je vous laisse en parler.
D'accord. Donc, en fait, c'est adapté d'un roman de Jean-Luc Seigle qui s'appelle « Je vous écris dans le noir ». Et « Je vous écris dans le noir » parce qu'en fait, c'est le début d'une lettre que Pauline Dubuisson a adressé à ses juges, la veille de son procès, elle était dans le noir de sa cellule. Elle a écrit une lettre, elle s'était ouvert les veines et elle essayait d'échapper à ce procès pour ne pas se donner en spectacle. Ça, c'est vraiment, le titre vient de là, vraiment, c'est les vrais mots de Pauline Dubuisson dans cette lettre.
Oui, parce que justement, je me posais la question, est-ce qu'il y a des écrits de Pauline Dubuisson ?
Alors, c'est un petit peu mystérieux. Il y a pas mal de choses qui la concernent, les minutes du procès, enfin voilà, on peut faire des recherches, il y a beaucoup de journaux de l'époque du procès, en particulier, c'était l'année 53. J'ai regardé, j'ai lu un petit peu tout ça, c'est assez terrible, c'est un vrai lynchage médiatique. Et alors il y a un espèce de petit mystère sur le fait que, oui ou non, ces cahiers ont été retrouvés ou pas, ou soustraits au dernier moment, enfin on ne sait pas très bien. En tout cas, Jean-Luc Seigle, il a imaginé que ces cahiers étaient adressés à la personne qu'elle aime à ce moment-là, qui s'appelle Jean, qu'elle vient de rencontrer, à Essaouira.
Ouais.
Et que par ses cahiers, par le biais de ses cahiers, elle lui racontait toute sa vie, toute son histoire, en espérant qu'il allait comprendre, justement, ce qui l'avait amené à tuer son premier fiancé, Félix Bailly. Et puis que lui, comme il l'aimait, eh bien, il lui pardonnerait, il passerait au-dessus de tout ça. Elle pense que là, à ce moment-là, tout est possible et tout va pouvoir recommencer. Au moment où commence le spectacle, on est à Essaouira, au Maroc, parce qu'elle s'est installée là-bas. Elle a fini, malgré tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, à réaliser sa vocation et à devenir médecin. C'est quand même un sacré tour de force.
Ah oui, c'est sûr.
Et,
surtout en 1953, oui, parce que déjà, les femmes médecins, c'était une nouvelle avoir beaucoup, oui.
Là, elle est sortie de prison. Au moment où elle est sortie de prison, elle a repris ses études de médecine et elle arrive à Essaouira à peu près en 60, c'est-à-dire au moment où, justement, Clouzot sort le film La Vérité, puisque c'est en gros ce qui l'a fait partir de France. Le fait que Clouzot réalise La Vérité remet en lumière toute cette histoire, on commence à reparler d'elle, les journalistes ne la lâchent plus, on commence à reparler du procès. Elle a peur que tout le monde lui tombe dessus à nouveau et elle se dit « c'est pas possible, il faut que je parte ». Donc elle voit une annonce pour un poste à Essaouira. Elle envoie une lettre au directeur où elle lui dit qui elle est. Elle lui raconte. Et le directeur de cet hôpital l'apprend, l'accepte, ne divulgue pas son secret. Entre-temps, elle a changé de prénom pour ne pas être reconnue. Au lieu de s'appeler Pauline, elle s'appelle André, qui est le prénom de son père. Et voilà, donc elle arrive sous une demi-fausse identité à Essaouira, ce qui fait que personne ne l'a reconnue en tant que Pauline Dubuisson. Mais au moment où, à un moment donné, comme son nouvel amoureux la demande en mariage, il va falloir dire la vérité. Et là, se repose encore une fois la question de la vérité. Cette histoire de la vérité, ça, c'est vraiment quelque chose qui la poursuit. À chaque fois qu'elle a dit la vérité, ça s'est très mal passé. Quand elle a dit la première fois la vérité à Félix, donc son premier fiancé, la vérité sur ce qui lui était arrivé à la Libération, c'est-à-dire le fait qu'elle a été une jeune fille tondue à la Libération, il l'a rejetée. Et puis, ensuite sort le film de Clouzot, qui de façon assez ironique s'appelle La Vérité, aussi. Quand elle décide de dire la vérité à Jean,
oui,
donc,
c'est ça.
Voilà, c'est-à-dire que...
Finalement, la vérité,
Voilà.
Elle est... Ouais, la vérité... Quoique le titre est juste quelque part, la vérité. Mais comment dire, moi quand j'ai vu le film de Clouzot, je me souviens de l'interprétation de Brigitte Bardot. Mais je pense qu'il y a un décalage énorme. C'est pas du tout la même chose que qui est raconté.
Non, pas du tout. En fait, je pense que lui, ce qui l'a intéressé, c'est le fait divers. C'est-à-dire le meurtre, le procès, parce qu'il a fait un film quand même qui a un film de procès, comme on dit. Et puis le côté très libre pour l'époque qu'elle avait. Et lui, il a plus fait un film, en fait, sur la confrontation de deux générations, de deux mondes. Bardot dans le film, même si elle est super, hein, moi je la trouve vraiment géniale dans le film, hein, c'est un de ses plus beaux rôles, c'est vrai. En même temps, il en fait une fille complètement écervelée, qui n'a pas du tout envie de travailler, qui a envie de s'amuser, etc., ce qu'on peut tout à fait comprendre.
Typique le fiancé de sa sœur, en fait.
Voilà, qui est... Voilà, qui...
Non, mais c'est quand même trop axé sur le côté vedette de Brigitte Bardot, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, personnellement, je la trouve pas si bonne que ça, Brigitte Bardot. Personnellement. Mais non, mais chacun ses goûts. J'aime bien Brigitte Bardot, mais je veux dire, dans ce film, je trouve que c'est quelque chose d'outrancier, un peu. C'est pas... Tandis que, disons qu'elle fait trop femme-enfant, un peu. Enfin, je veux dire, c'est pas... Elle a pas vraiment le profil d'une personne qui va devenir médecin.
D'ailleurs, il n'en a absolument pas question dans le scénario. Moi, je dis la faute à Clouzot, quoi, parce que il en a pas du tout fait une étudiante en médecine. Il a complètement gommé même le passé de Pauline, le fait qu'elle ait été tendue. Enfin, voilà, toute son histoire, tout ça, ça n'existe pas, quoi. Dans le film, il reste juste cette jeune fille, effectivement.
Une belle femme, quoi.
Très belle, qui a envie de vivre, qui a envie de profiter de la vie. Voilà. Et ça, très bien, hein, super, c'est très bien aussi. Mais du coup, c'est pas du tout, c'est vrai que c'est pas du tout l'histoire de Pauline Dubuisson, quoi. Alors il y a des choses qui quand même sont là, c'est le procès. Effectivement, il y a vraiment des choses, l'avocat général très très dur, et pour les gens qui se rappellent encore, c'était Maître Floriot, qui était quand même quelqu'un, un avocat très connu à l'époque, qui a requis contre elle et qui a requis la peine de mort pour un crime passionnel, ce qui était complètement exceptionnel, quoi. Je veux dire, et ça, c'était vraiment dû à tout ce qu'elle avait traversé avant, et on lui a fait payer vraiment le fait qu'elle ait été tendue, tout ce qui s'était passé avant. Dans le film, en fait, et ce qui s'est passé dans la réalité aussi, c'est que pour obtenir la peine de mort, on essaye de démontrer qu'elle a prémédité le crime. Tout doit s'appuyer sur la préméditation.
Ça aurait pu être un accident.
C'est un accident. C'est-à-dire, en réalité, elle arrive avec le revolver pour se tuer devant lui s'il la repousse à nouveau. Elle vient avec cette idée de se tuer devant lui. Après, la scène, voilà, ce qui se passe entre eux à ce moment-là fait que c'est tellement violent qu'elle perd complètement les pédales.
Mais les coups, ils partent.
Voilà, après, elle essaye de se tuer, il n'y a plus de balles dans le chargeur, c'est pas une professionnelle non plus, elle va à la cuisine, elle ouvre le gaz, enfin, elle a vraiment envie de se tuer. La police arrive, il l'accueille, et effectivement, elle n'arrive pas à se suicider. Elle réessayera plus tard, donc comme je vous l'ai dit, au moment du procès. Mais ce qu'il y a à noter aussi, c'est qu'on parlait de Bardot, et à la fin du tournage, avec Clouzot, Bardot, elle a fait une tentative de suicide. Hein. Elle a été...
Mais il paraît qu'il a été très dur, Clouzot, avec elle.
Elle a été très, très malmenée.
Il paraît que c'était un sadique. Il est réputé pour être un peu tordu. Bon, bah.
Voilà. Voilà. Bah, oui.
Ah, c'est ça. Oui. Mais alors, c'est difficile de savoir finalement qui était Pauline Dubuisson. Donc là, dans la pièce, enfin c'est pas une pièce, c'est d'après le roman de Jean-Luc Seigle. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui est prise dans les rouages de la grande histoire aussi, parce qu'elle est tondue, elle a aimé un Allemand, bon ben voilà, mais à cette époque-là, on n'avait pas le droit d'aimer un Allemand, bon ben voilà. Enfin, j'imagine, hein, je connais pas trop les circonstances, donc, à cause de ça, elle a été... dans le corps de la pièce, vous l'évoquez, ça, et c'est terrible, hein, la façon dont vous racontez, parce qu'elle a été violée aussi.
Oui.
Enfin, c'est terrible. Hein. Moi, j'ai trouvé ça horrible. Enfin, je veux dire, il y a quelques détails qui m'ont...
bouleversée.
Oui, vraiment. Mmh. Et ensuite, bon, ben, je crois quand même qu'elle a été traumatisée par cet événement. Et c'est une femme qui avait besoin de quelqu'un qui l'a... comment dire, qui, enfin, pas qui la console, mais qui un support, quoi, quelqu'un qui puisse l'aider, qui puisse la comprendre. Et puis elle est mal tombée, quoi, voilà tout. Oui. Elle est mal tombée. Et ben voilà, encore un autre concours malheureux. Elle tue par désespoir quelque part. Si j'ai bien compris, c'est une femme quand même qui est blessée.
Oui.
Qui est blessée. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide, d'ailleurs.
Oui, oui, je pense qu'elle est allée profondément, parce que Jean-Luc Seigle disait aussi, c'est incroyable, enfin, tout ce qu'elle a traversé en même temps. Alors on se dit, c'est une histoire très singulière, très particulière. En même temps, moi je trouve que c'est l'histoire de beaucoup de femmes de cette époque, et puis c'est aussi l'histoire de beaucoup de femmes à un moment ou à un autre, même si on cumule pas effectivement toutes les épreuves qu'elle a traversées. Je pense qu'il y a beaucoup de moments, même si on n'est pas des meurtrières, où on peut se reconnaître chez elle, dans toutes ses failles, dans les moments d'espoir.
Mais surtout, c'est une femme, bon, c'était l'époque, c'est le contexte, mais c'est une femme qui s'est heurtée à des murs.
Oui.
Des murs, c'est-à-dire que et à l'hostilité des juges. Enfin bon, déjà, être tondue, elle avait 16 ans hein, quand oui, elle a rencontré cet Allemand. Hein. Être tondue, humiliée et violée, bon, tout ça parce qu'elle avait couché avec un Allemand. Bon, déjà, elle avait que 16 ans, quoi. C'était une enfant presque. Oui. Donc personne n'a eu pitié pour vis-à-vis d'elle. Et ensuite, quand elle a eu son procès pour le meurtre de son amant, les juges, enfin, n'a rencontré que elle a eu des, les gens se sont moqués d'elle, enfin bref, on l'a traînée dans la boue, quoi.
C'est ça. Ouais,
voilà.
C'est vrai,
ouais. Et donc l'intérêt aussi de justement, c'est pour essayer un petit peu de rendre justice, enfin, à cette femme qui finalement n'était pas c'était pas un monstre, hein, c'est quelqu'un qui était pris dans des circonstances qui ont fait d'elle effectivement c'était pas forcément un ange quand même, mais je veux dire de là à la mettre dans la boue et à l'humilier c'est pas si loin que ça, les années 50.
Non, bien sûr, c'est pas si loin. Je pense qu'il y a encore des endroits, des pays où ça se passe comme ça aussi actuellement. Enfin, là, on en parle, nous, en France, mais on peut ne pas oublier aussi tout ce qui se passe.
Voilà, en Iran, là, autour, en ce moment, là, oui. Il y a une femme qui a été tuée parce qu'elle n'a pas mis correctement son voile.
Voilà.
Vous rendez compte ?
Oui, oui, non, mais je veux dire, je pense que l'histoire Pauline, elle est universelle, hein, d'une certaine façon. Pour nous, c'est un fait divers, voilà, comme ça, français, mais ça, je pense que ça parle à beaucoup de femmes.
Ce qui est malheureux, c'est qu'il est très probable que ça existe encore. Hein,
bien sûr.
Des hommes qui ont un comportement misogyne, ça existe, hein, ça a toujours existé. Et c'est pas complètement effacé, je pense pas. Hein. Mais donc, c'est normal, justement, de faire parler cette femme, parce qu'elle a été, on sent qu'il faut quelque part réhabiliter sa vraie nature, sa parole. C'est une façon un peu de la sortir de l'opprobre dont elle a été victime.
En fait, c'est ce qu'a fait Jean-Luc Seigle, c'est que en fait il connaissait bien cette histoire et il s'est dit aussi que elle avait jamais eu la parole. Elle n'avait, elle, jamais raconté son histoire. C'est toujours les autres, voilà, qui ont parlé d'elle. Alors après, c'était des portraits au vitriol, hein. Vraiment, c'était très, très dur. Et ce qu'il a fait, effectivement, c'est de la faire parler, pour une fois. Alors après, on est dans un roman. On est bien d'accord. Il a écrit un roman. Donc il y a toute une part, qui sont, son imagination, comment il a comblé les blancs de l'histoire, etc. Mais du coup.
Si ça se trouve, il est. Est-ce qu'il y a des photos de Pauline Dubuisson?
Oui.
Si ça se trouve, peut-être que quelque part, il est tombé amoureux de son visage, de, je sais pas, de quelque chose. Pour se mettre dans la peau de quelqu'un, il faut qu'il y ait une attirance.
Oui, et je pense que surtout, lui, il était très, très, pour l'avoir un peu connu.
Il l'avait connu?
Moi, pour
oui.
l'avoir.
Ah oui, vous avez connu Jean-Luc Sack, oui. Voilà. Oui, parce que malheureusement, il est décédé, oui.
Il était très révolté par les injustices.
Ouais.
Il avait très envie de donner justement la parole aux gens qui n'ont pas souvent la parole. Et c'est ce qu'il a fait avec elle. Et puis, c'est vrai que c'est un personnage fascinant. Vous disiez tout à l'heure, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais moi, c'est en fait ce qui me séduit et ce qui me fascine, c'est ça. C'est que finalement, ça reste un mystère. Et c'est bien qu'il reste une part de mystère et qu'on puisse essayer chacune, chacun, de projeter aussi des choses différentes sur elle.
Oui, mais de toute façon, vous avez raison de le dire. Je trouve que cette psychologie-là de femme qui a vraiment besoin d'être aimée et qui a besoin d'aimer et d'être aimée. Parce que,
oui.
Bon, les hommes aussi, hein, mais enfin, je veux dire... moi, en tant que fan, je crois que j'ai rencontré des personnes comme ça. C'est vrai que c'est... ça peut toucher n'importe qui, hein,
oui.
franchement. Hein.
Oui, oui.
Hein, c'est, après tout, on fait des... Racine a écrit Andromaque, Phèdre et Patati. Enfin, je veux dire, ça pourrait effectivement faire l'objet d'une tragédie, quoi, je veux dire, hein, c'est sûr. Oui.
Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est la petite cousine des Atrides, quoi. Enfin, c'est incroyable ce qui lui tombe dessus. J'avais lu un article, justement, à la sortie du roman, où une journaliste, je crois, employait le terme « le sadisme du destin ». Et je crois que c'est très juste en ce qui la concerne. C'est-à-dire, on a l'impression qu'effectivement, elle est là avec son petit nuage noir tout le temps au-dessus d'elle et que...
Mais en même temps, elle est attirée aussi par des hommes qui sont des salauds, quoi. Je veux dire, c'est pas de sa faute, hein, mais je veux dire...
A priori, je sais pas.
Non, mais vous savez que...
Ils sont pas, mais ils se révèlent ne pas être à la hauteur, en tout cas. Je sais pas, je pense pas que ce soit vraiment des salauds. Je pense que juste, ils ont pas été capables d'accepter qui elle était.
Non, mais quand je dis salaud pour ça,
oui,
peut-être
voilà.
pas général, mais
oui, oui,
parce c'est une attitude, puis c'est un ressenti, quand je dis salaud, c'est parce
oui.
que c'est un ressenti, moi
ouais.
je le vois comme ça, moi je sais pas, moi si ça m'arrivait, ben, je traiterais cette personne de salaud, et puis voilà,
voilà.
Alors, c'est un ressenti, même si c'est pas, même si on peut pas dire que généralement il le soit, c'est quand même un ressenti.
En fait, à chaque fois, ce qu'ils font, ces hommes-là, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont, ils ont peur de la réaction de leur famille. En réalité,
ah, oui.
voilà, ils ont peur
du
de
contexte, ce que,
voilà, du contexte, de la...
Alors que ça a voilà. toujours été, hein, des amours impossibles,
oui.
c'est encore Roméo et Juliette, c'est encore, je ne sais plus, enfin, ça a toujours été, on n'épouse pas quelqu'un qui n'est pas de son milieu... enfin bref, c'est vrai que c'est vieux comme le monde. Hein.
Voilà.
C'est pas...
Elle traîne la honte d'avoir été... Alors, pour Félix le premier, elle traîne la honte d'avoir été tondue à la Libération. Et c'est encore dans ces années-là quelque chose qui est très présent dans les esprits, hein, début des années 50
mais ça, c'est,
quand même.
Ça, c'est, pas des, c'est pas des salopards, c'est les gens qui sont conduits comme ça.
Ah,
moi, je dis
que
ce sont
si.
Des... Ah oui, quand
oui,
même.
Oui, bien sûr que
oui,
si.
Mais
oui.
sur le moment, c'est vrai qu'ils ont, pas, ils ont réagi comme ça et les gens ont approuvé. Quoi, c'est ça, c'est tout. Parce qu'il y avait la souffrance des années d'occupation. Je dis pas que c'était bien, l'épuration.
Ah oui, je parle pas des gens qui l'ont tondu. Hein. Je parlais de Félix, je parlais de la réaction
oui.
de son fiancé.
D'accord
hein.
aussi, oui.
C'est-à-dire que lui, il a pas accepté, il a pas, il s'est dit ah mais non, moi j'ai une famille de gaullistes et de résistants, je vais pas amener une fille qui a été tondue à la Libération, c'est impossible.
Oui, mais même, je suis pas pour la version dent pour dent et œil pour œil, hein.
On est d'accord,
je suis désolée. Hein. Alors sinon ça n'en finit pas. Hein. Alors
c'est une forme de lâcheté aussi, et puis
oui.
du manque d'amour aussi, parce que s'il avait vraiment aimé, peut-être qu'il aurait défendu, soutenu, qu'il serait quand même resté avec elle.
Non, mais je trouve que l'humiliation telle que vous la racontez, parce que il y a ça, mais il y a d'autres détails qui sont terribles, et puis il y a le viol aussi, enfin bref, je suis désolée, une femme qui subit des choses comme ça, ça vous bougille la vie. Il vient de ressortir un livre parce qu'il y a eu une photo d'une femme qui a été tondue à la Libération, et il y a un livre là qui sort parce que c'est le moment des remises de prix, je sais pas quoi, et donc dans ce livre, là, je ne sais pas qui est l'auteur, il est question justement de romancer l'histoire de cette femme qui a été tondue à la libération. Et qui, effectivement, ça lui a pourri la vie. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne s'en est pas relevée.
Il y en a eu énormément. Hein. Pendant longtemps, c'est une page de l'histoire dont on n'était pas fiers, quoi. Enfin, je veux dire, on a gardé la libération, et puis tout ce qui s'est passé autour, les exactions, les petites vengeances mesquines, personnelles, les résistants de la dernière heure, tout ça, c'est resté un petit peu sous le boisseau pendant longtemps. Il y a peu de temps maintenant qu'on commence à en reparler. Et j'avais vu un très beau documentaire qui s'appelait La tondue de Chartres. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ou justement à partir de
photos. C'est elle, le roman, voilà.
Oui, oui, et justement, à partir d'une photo et de plusieurs photos comme ça, il essayait de retracer un peu son parcours quoi, dans la ville, le moment où elle était prise, tondue, elle est entourée d'autres femmes tondues, effectivement. Et c'est vrai que c'est très, très impressionnant. Quoi. Et quand elle dit « Je m'appelle Pauline Buisson, j'ai tué un homme, mais personne ne n'est assassin », je pense que c'est évident quand on lit son histoire ou quand on voit le spectacle, par exemple, qu'effectivement, il y a cette espèce d'enchaînement infernal qui fait que, c'est pas du tout pour l'excuser que je dis ça, mais qui fait qu'à un moment, ça peut complètement partir en vrille dans sa tête au moment où elle tue Félix parce que
moi, je pense qu'elle était déjà perturbée, je pense. Donc, étant perturbée, il arrive qu'on ne maîtrise plus ses émotions. Moi, je pense que ça peut arriver à. Les êtres humains sont fragiles. Hein, n'étant pas aidé ou étant seul, c'est plausible de penser ça. Après, la pièce ne veut pas être un procès. Il ne s'agit pas le procès de Pauline Dubuisson. Il s'agit de faire entendre sa voix.
C'est ça.
Et c'est un homme qui a écrit un roman à partir de son histoire. Et c'est vous qui l'interprétez, voilà.
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez, alors ici c'est une tradition, on n'est pas dans le contexte ici, exactement, le théâtre de la Reine Blanche. Mais il n'y a pas le joli hamac où vous balancez comme un oiseau.
On n'a pas parlé de ça. Si, oui.
Non, mais on n'entend pas le chant des oiseaux non plus.
Oui.
Ça, c'est le chant des oiseaux, vous en parlez. Enfin, c'est Pauline Dubuisson qui en parle. Mmh. Elle adore le chant des oiseaux. Oui. On ne l'entend pas, on ne va pas l'entendre ici, ou peut-être tout à l'heure. Parce que finalement, Pauline Dubuisson, elle a le cœur tendre. C'est une jeune femme qui a le cœur tendre complètement. Et donc, un petit extrait pour que...
Alors là, vous me prenez de court, mais je peux vous faire le début.
Oui,
effectivement, on n'a pas la bande-son, on n'a pas le... Alors, il faut imaginer les mouettes, le vent dans la ville, des saouiras et les voix des femmes marocaines qu'on entend. Ah, j'aime la langue arabe. Je ne comprends pas du tout ce que disent les femmes marocaines, mais j'aime cette langue. Le jour de mon arrivée à Essaouira, j'ai pris possession de cette maison. Enfin, je ne sais pas si c'est moi qui possède cette maison ou si c'est elle qui me possède. Je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'entre ces murs. J'aime tout de cette ville. Les gens, la lumière, les couleurs, l'odeur de la menthe fraîche, de la sardine grillée, les chats dans les rues, le vent sur les remparts. Les voix des femmes sont comme une musique. Et j'aime cette musique. Elle me rassure. Elle me berce comme le bruit des vagues. Avant, il y a longtemps, dans un autre temps et un autre pays, j'écoutais le chant des oiseaux. Et rien ne me touchait plus que le chant des oiseaux. Les oiseaux qui chantent dans la forêt, comme dans une cathédrale, c'est magique. Quand j'étais enfant, mon père m'emmenait avec lui à la chasse pour m'endurcir. Il marchait devant moi, en silence, le fusil couché sur le bras. « Papa ?»«
Quoi, Pauline ?»«
Papa, tu sais les oiseaux ?»«
Quoi, les oiseaux ?»«
Les oiseaux, ils me parlent. »«
T'es bien une fille, toi. »« T'as trop d'imagination, faudra corriger ça, c'est un défaut. »«
Pourquoi c'est un défaut ?»«
Parce que c'est un mensonge. »«
Un mensonge ?» Pourquoi ?
Mais ne discute pas, Pauline. C'est un mensonge, c'est tout. C'est à partir de ce moment-là que je n'ai plus entendu le chant des oiseaux. J'ai failli pleurer. J'aimais tellement mon père. C'était un héros de la guerre de 14 et j'étais convaincue que plus mes sacrifices seraient grands, plus il m'aimerait. C'était un amour absolu. L'amour donne une très grande emprise sur les gens. Parfois pour le meilleur, parfois aussi pour le pire.
Merci.
Voilà.
Merci.
La belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on a tondu le crâne rasibus, le crâne rasibus. Son penchant prononcé pour les ichlibediches, pour les ichlibediches, lui valut de porter quelques cheveux postiches, quelques cheveux postiche. Les braves sans culotte et les bonnets phrygiens, et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien, un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu parti pour sa toison, parti pour sa toison. J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon, pour sauver son chignon. Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur, du fond de ma torpeur. Les coupeurs de cheveux en quatre m'ont fait peur, en quatre m'ont fait peur. Quand pire qu'une brosse, elle eût été tondue, elle eût été tondue. J'ai dit c'est malheureux, ces accroche-cœurs perdus, ces accroche-cœurs perdus. Et ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, qui traînait dans l'ornière, je l'ai comme une fleur mise à ma boutonnière, mise à ma boutonnière. En me voyant partir, arborant mon toupet, arborant mon toupet, tous ces coupeurs de nattes m'ont pris pour un suspect, m'ont pris pour un suspect. Comme de la patrie, je ne mérite guère, je ne mérite guère. J'ai pas la croix d'honneur, j'ai pas la croix de guerre, j'ai pas la croix de guerre. Et je n'en souffre pas avec trop de rigueur, avec trop de rigueur. J'ai ma rosette à moi, c'est un accroche-cœur, c'est un accroche-cœur.
Radio Libertaire 89,4 MHz, à propos de la pièce Je vous écris dans le noir au théâtre de la Reine Blanche. Sylvie Van Cleven, je voudrais savoir, tu as rencontré Jean-Luc Seigle, tu nous l'as dit, mais si tu avais eu la possibilité maintenant, si tu avais maintenant la possibilité là, qu'on te fasse rencontrer Pauline Dubuisson, qu'on la fasse revenir, qu'est-ce que tu lui demanderais ?
Alors ça, j'aurais tellement aimé. Et juste pour faire une petite parenthèse, je suis allée à Essaouira. Et j'ai retrouvé la maison où elle habitait, j'ai retrouvé l'hôpital aussi, qui n'est plus un hôpital maintenant, mais et puis le cimetière où elle a été enterrée. C'est un cimetière marin, on entend très très fort l'océan, c'est avec des tombes comme ça un peu brinque-ballante. J'ai posé ma main, sur la tombe, et c'était un moment très important. Ce que je lui demanderais, bah, j'aurais une foule de questions à lui poser, mais surtout j'aurais envie de l'écouter. Je ne sais pas si je lui demanderais quelque chose.
Non, parce que c'est gênant quand même de...
Oui, et puis j'aurais plus envie qu'elle me raconte son histoire et la façon dont elle l'a vécue. Et voilà, j'aimerais entendre sa version de l'histoire. Et voilà, parce que ce qu'il faut dire aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le roman... Parce que là, on a parlé de tout ce qui lui arrive, tout ce qui est très, très dur. Mais c'est aussi qu'elle elle rebondit tout le temps.
en fait, elle se relève tout le temps. Il lui arrive un tas de choses vraiment terribles, un tas de traumatismes. On dirait maintenant qu'elle est très résiliente, même si le mot maintenant est un petit peu galvaudé. Mais moi, c'est ce qui m'a séduit, en fait. Quand j'ai lu le roman, c'est l'incroyable force qu'elle avait. Comment elle arrive à se sortir de tout ça? Il n'y avait pas de cellule d'écoute psychologique à l'époque, hein. Elle s'est sortie toute seule, quand même, à chaque fois, des situations. Et puis, ce qui l'a tenue, moi, je trouve, ce qui l'a tenue en vie et ce qui l'a fait avancer, c'est cette vocation qu'elle avait. Elle voulait, depuis qu'elle était enfant, être médecin. Et malgré tout, elle l'a fait. Elle a réussi. Elle a quand même terminé médecin à Issaoura. Ça, c'est ce qui me...
Oui, elle est allée au bout de ce qu'elle voulait faire, c'est certain.
Oui.
Mais à un moment donné, elle a craqué, quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas combien de traumatismes, si on faisait le compte, elle a pu encaisser. Mais il y a un moment donné, effectivement, je pense que c'est trop, quoi. Enfin, je pense qu'à un moment donné, on peut plus. Et le dernier.
Mais elle avait des tendances suicidaires, hein, puisqu'elle avait fait plusieurs tentatives.
Absolument.
C'est ça le problème, c'est que moi j'en ai entendu parler, mais quand on fait une, deux, oui, et malheureusement, ouais, parfois la deuxième ou troisième, mmh, ça.
Mais quand même, elle avait une force de vie, moi je trouve incroyable.
Mais c'est vrai, mais ça empêche pas. On peut très bien avoir une très grande force de vie et malgré tout aussi une tentation de. Oui. Avoir envie d'en finir aussi, parce que c'est peut-être aussi une personne qui était très exigeante aussi. Enfin, très passionnée. Enfin, elle n'était pas tiède, quoi. Donc, elle ressentait les choses très, très fort. Donc, bon, voilà. Bon, c'était sa façon d'être aussi.
Oui.
Hein, je pense. Hein, elle était toujours dans le plus, quoi. Enfin, il y a des gens, ils restent zen, quoi. Je veux dire. Mais il y en a d'autres. Il faut qu'ils soient toujours.
Oui, c'est quelqu'un de très passionné. Enfin, c'était quelqu'un de très passionné, complexe aussi, on l'a dit. Moi, c'est ça qui m'intéressait aussi, parce que les personnages trop lisses ou qu'on comprend trop bien, finalement, c'est pas les personnages les plus intéressants.
Et, de toute façon, il planera toujours un mystère, parce que il est possible aussi que. Alors, on ne sait pas s'il y a des écrits d'elle ou etc., mais. Quelque part, chaque personne a son intimité, a ses secrets. On l'avait suffisamment exposée pour qu'elle ait envie de garder son mystère, je pense. Hein. Enfin, je sais pas, j'imagine. Hein. Après, effectivement, je comprends que beaucoup de personnes étaient touchées par son histoire.
Oui.
Et c'est un homme qui parle. C'est étonnant, d'ailleurs. Enfin, c'est parce que peut-être qu'il y a, quand on est un homme, enfin. Après, c'est plus tellement une histoire de genre, mais quelque part, peut-être qu'on a plus de recul, c'est possible.
Je crois que, enfin, les romans de Jean-Luc Seix sont vraiment magnifiques pour accorder à sa personnalité. Moi, le premier que j'avais lu s'appelle En vieillissant, les hommes pleurent. Voilà, qui est un très très beau roman aussi. Et le dernier qui est paru. À titre posthume, puisqu'il n'était plus là au moment où le livre est paru, s'appelle « L'enfant travesti ». Et j'engage tout le monde à le lire, parce que c'est un roman magnifique, et qu'en plus, ça donne aussi pas mal de clés, et qu'on comprend à ce moment-là aussi pourquoi il se glisse si bien dans la peau d'une femme pour raconter cette histoire. Donc, si vous avez l'occasion de lire ce roman, L'enfant travesti, c'est une histoire très, très particulière. C'est son histoire. Et ça nous donne un éclairage un petit peu différent. Et effectivement, quand le roman était sorti, il y a eu pas mal de... Enfin, il y a eu de très, très belles critiques. Hein. C'est un roman qui a eu des prix. Et puis, on avait bien souligné à quel point le fait que ce soit écrit par un homme soit quelque chose même d'assez remarquable. Je pense qu'on donnerait pas le nom de l'auteur, on le ferait lire en aveugle. C'est pas facile de lire en aveugle, mais bref, on le ferait lire en aveugle sans donner le nom. On se rendrait bien compte. Je crois que peu de gens imagineraient que c'est un homme qui a écrit. Et ça, ça fait partie aussi, je trouve, de la beauté de ce roman, quoi. Qu'il ait pu à ce point-là, se mettre dans sa peau à elle, quoi. Je trouve ça assez incroyable.
Mais du roman à la pièce, il y a un parcours.
Ah, oui, absolument.
Le travail d'Evelyne Love, qu'est-ce qu'elle a fait là-dedans? Elle a coupé, elle en a...
Alors, Evelyne Love, d'ailleurs, c'est quelqu'un de super. C'est une grande amie à moi. C'est quelqu'un aussi dont c'est le métier. Exactement, d'adapter des textes ou d'en écrire. Elle a travaillé beaucoup. Elle a suivi toute l'aventure du Campagnol avec Jean-Claude Pinchenat. Elle a coécrit le bal, donc avec lui et tous les comédiens qui participaient. Maintenant, après, elle a travaillé avec Robin Renucci au Tréteau de France. C'est vraiment quelqu'un de formidable et c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a des années et des années, qui est une amie. Et c'est elle qui m'a emmenée voir une pièce que Jean-Luc Seigle avait écrite et qui était une pièce sur Dorothy Parker qui s'appelait Excusez-moi pour la poussière, qui était très très belle. Et à la fin, c'est elle qui me dit, tu sais, tu devrais lire Je vous écris dans le noir. Je suis sûre que c'est pour toi. Merci, merci encore mille fois, parce que sans elle, ça ne serait jamais arrivé. Donc au moment où j'ai lu le roman, je suis allée voir Jean-Luc Seigle, qui donc était au théâtre du Lucernaire, puisque c'est là que la pièce se jouait. Et donc je lui ai dit que j'avais très envie de jouer ce personnage, de faire adapter la pièce, et je lui ai dit que ça serait Evelyne Love qui le ferait. Il était très content parce qu'il avait une énorme confiance en elle. Après, avec Evelyne, on a parlé effectivement de ce qui nous intéressait dans le livre, ce qu'on avait envie de dire avec cette histoire. Effectivement, c'est toujours le crève-cœur d'une adaptation, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on laisse de côté. Évidemment, il y a des pans entiers de l'histoire.
Oui, et puis pour le théâtre aussi, parce que...
Voilà. Oui. Et puis il y a des choses plus ou moins possibles.
Il faut que c'est quand même une présence théâtrale.
Il faut que ce soit possible sur un plateau. Oui. Voilà. Oui. Par exemple, je le disais tout à l'heure, les cahiers, dans le roman, ils sont adressés à Jean, à son amoureux. Sur le plateau, en fait, je parle directement aux spectateurs, je parle directement aux gens. En fait, on a changé cette adresse-là, par exemple. Et puis après, vous parliez justement de cette scène très difficile, voilà, de ce qu'on appelle, nous, la scène de la libération, où elle est arrêtée, tendue, violée, etc. Et en fait, dans le roman, ça dure, mais plus d'un chapitre, quoi. C'est un truc, mais terrible. Moi, quand je l'ai lu, à un moment donné, j'ai refermé le livre, et puis je l'ai rouvert. C'est très, très, très dur à lire. Et j'ai demandé un jour à Jean-Luc Seigle, je lui ai dit, mais comment t'as fait pour écrire ça? Et il m'a dit, écoute, je l'avais gardé pour la fin. Je savais que j'allais écrire ce moment-là, et je l'ai gardé pour la fin. Et à la fin, j'ai écrit tout ce passage-là, et je n'y suis pas revenue. Je ne l'ai pas relu, je ne l'ai pas modifié. Il l'a écrit d'un jet, il n'y est pas revenu. Et nous, après, il a fallu qu'on trouve la façon de faire entendre ça sur scène sans que ça ait, évidemment, la violence de la lecture. Parce que la lecture, effectivement, on peut arrêter, on peut prendre de la distance. Là, non. Hein, le public est devant, on ne peut pas non plus faire quelque chose de complètement terrible, même si ça l'est déjà.
Rien que ce qui est évoqué, oui. ça... Bon,
c'est très dur, c'est bouleversant.
Mais c'est pas pathétique la façon dont vous jouez. Hein.
Non,
parce qu'on pourrait se dire, je vous écris dans le noir, ça va être un truc qui va donner le cafard, ça va être noir, ça va être horrible. Non, parce que quand même, comme le premier extrait que vous avez interprété, on sent bien que c'est une femme qui aime la vie quand même.
Oui, absolument.
Et qui est, qui a le goût du bonheur aussi.
Oui. Voilà. Oui, et puis on s'est toujours attaché quand on l'a travaillé avec Gilles Nicolas, qui est le co-metteur en scène, qui était mon œil extérieur, donc qui était très très important pour moi et qui m'a dirigé, à ce que justement ça ne soit jamais mélo. Jamais, jamais. Parce que ce qu'on aime dans le personnage, c'est effectivement sa faculté à se battre, quoi, à tout le temps résister, à continuer, et elle ne sait pas. Elle est victime, on peut considérer qu'elle est victime par moment, mais elle avance toujours, quoi. Elle rentre jamais dans cette position vraiment victimaire, alors que nous, maintenant, avec nos yeux de maintenant, on se dit, oh là là, c'est pas possible tout ce qu'elle a traversé, mais elle, je pense qu'elle a pas d'autre solution que de continuer jusqu'au bout, et de suivre la voie qu'elle s'est tracée, c'est-à-dire devenir médecin, d'essayer coûte que coûte d'avancer. Moi, c'est vraiment ce que je trouve génial dans le personnage, hein.
Oui, et puis, oui, il y a ça. Mais en même temps, on se dit que c'est une femme qui a un désir de vivre comme vous, comme moi, oui, comme n'importe qui, quoi. Je veux
absolument
dire, bon, il lui est arrivé des malheurs qui n'arrivent pas à tout le monde, mais en fin de compte, c'est une femme comme tout le monde, quoi, quand même, malgré tout. Bon, elle a peut-être un peu plus de force que d'autres pour arriver à être médecin, mais il n'empêche que profondément, elle a les désirs que Pierrette, Paulette ou Jacqueline peuvent avoir, quoi, je veux dire.
Oui, et c'est vrai que je rebondis sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure et qui m'a interpellée, c'est que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle des femmes criminelles, souvent, enfin dans les médias, c'est tout de suite des monstres. En fait, elles sont presque pas humaines. Elles ont une dimension, terrible, monstrueuse, etc. Je crois que, je vais pas dire une bêtise, mais j'avais entendu une fois que la proportion de meurtres commis par les femmes, je crois que c'est 4%. Et donc, mais elles, quand elles commettent un meurtre, c'est voilà, monstrueux. Là, on arrive dans la mythologie, quoi. Carrément, on fabrique des monstres.
Parce qu'on a derrière nous des siècles où on traitait les femmes de sorcières. Alors,
c'est ça.
Qu'est-ce que non, ça, que ça restait hein,
C'est qu'elles sont jamais traitées comme des hommes. Alors, bien sûr, c'est jamais normal de tuer quelqu'un. On est bien d'accord. Mais en même temps, dès que c'est une femme, voilà, ça prend une dimension, mais mythique, quoi.
Enfin, ouais, les mantes religieuses,
l'empoisonneuse de quelque chose, le monstre de... Voilà, j'écoutais l'autre fois, il y avait une émission à la télé, effectivement, on disait le monstre de quelque chose, l'empoisonneuse, enfin, tout est toujours très emphatique dès qu'il s'agit d'une femme, et même si c'est un crime passionnel, voilà, c'est comme ça, ça devient quelque chose, je pense, d'absolument... Les gens ont du mal à le concevoir. Peut-être c'est pour ça qu'on en fait des monstres. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de très injuste en même temps dans la façon dont c'est traité à chaque fois. Pauline Dubuisson, c'était la Messaline.
Voilà, Messaline. Ouais.
Enfin voilà, après ils avaient expliqué au procès que comme elle allait à la chasse avec son père, elle était déjà habituée au sang. Et comme elle faisait des études de médecine, elle avait assisté à des dissections. Donc elle était déjà froide et préparée à tuer en fait. C'est-à-dire...
Ça en fait des mecs aussi dans ce cas-là.
Ah ben voilà, elle était préparée. Quoi? Parce qu'en tant que femme, elle a vécu des choses qui n'étaient pas du domaine d'une femme et que donc elle était, voilà, prête à tuer. Et c'est pour ça qu'ils l'ont dit, non, elle l'a fait froidement, elle avait prémédité et c'était tout l'argumentaire de Florio, justement, pour arriver à la faire condamner à mort.
Ah ouais, ouais. Et il paraît qu'il y a un avocat, Jacques Vergès,
oui,
c'est en étant un assistant à ce procès qu'il a décidé d'être avocat.
Ouais.
Ah, d'accord. Ah ouais.
Ouais, ouais. Il a assisté au procès de Pauline. Il a trouvé ça, je pense, tellement terrible, la façon dont ça s'est passé. Et c'est vrai qu'il y a une autre chose qui est assez jolie, parce que je l'avais vu dans... C'est dans l'histoire du procès, mais je l'avais lu aussi dans le journal. Effectivement, il y avait une femme parmi les jurés qui était couturière. Et voilà, ce qu'on dit, que c'est grâce à elle qu'elle n'a pas été condamnée à mort. Elle a été, à un moment donné, condamnée à la perpétuité. Mais on pense que, et c'est à peu près sûr, hein, que c'est grâce à elle, à cette couturière.
Comme quoi, à cette époque-là, parce que bon, la peine de mort existait à cette époque-là.
Oui.
Finalement, ça a été un cheveu, quoi.
Oui,
qu'elle ne soit pas...
Oui, hein, ça a tenu à peu de choses, et en particulier, certainement, à cette femme-là.
Ah oui, oui, oui. Ouais.
C'est quand même. Ce procès, c'était quelque chose. Hein. Ça a fait les gros titres pendant des semaines et des semaines. Enfin, vraiment. Et puis, c'était le fait divers, quoi.
Ouais. Mais, je veux dire, c'est quand même. On a l'impression, quand même. C'est comme une mission, quelque part, de parler pour elle, quoi.
Exactement. Je pense que ça a été une mission pour Jean-Luc. Et puis maintenant, à ma petite façon à moi, c'est vrai que c'est ma mission. C'est vrai que je n'ai pas du tout envie de l'abandonner. Voilà, j'aimerais que... Ça s'est déjà joué auparavant, mais j'aimerais que ça continue pour continuer à porter sa parole, à la faire entendre, juste la faire entendre. Après, les gens... Et voilà, ils se font leur avis, ils décident si oui, non, s'ils l'aiment, s'ils l'aiment pas, si elle est attachante, pas attachante. Mais en tout cas, au moins, grâce à Jean-Luc Seigle et grâce à cette pièce, on entend sa voix, on entend ce qu'elle a à dire. Et dans la mise en scène, et quand on a monté la pièce, on avait très envie, enfin, on s'est vraiment attaché à ce que les gens arrivent à être au plus près d'elle. On avait envie que les gens soient avec moi dans sa tête, quoi.
Mm-hmm.
Voilà, qu'ils soient au plus près de ce qu'elle pensait, de ce qu'elle ressentait, pour voilà, qu'il y ait une petite partie d'elle qui soit accessible et que ça reste pas ce monstre froid qu'on décrit, etc. Ouais. Qu'on arrive à être avec elle.
Ouais, ouais. Et il y a plus de, elle a pas de descendants, enfin elle a pas de famille.
Alors elle a, ça c'était étonnant. J'ai joué pas cette année, mais l'année précédente à Avignon.
Mmh.
Et c'était super émouvant. À la fin d'une représentation, il y a une jeune fille qui est venue vers moi et qui m'a dit voilà, je suis une parente de Pauline Dubuisson. Elle était là avec sa maman qui était une cousine. Mmh. Aussi, voilà, je crois que c'était du côté de sa mère. Et on a parlé ensemble, toutes les deux, et c'était super touchant. Elles étaient très contentes d'entendre sa parole.
Mmh.
Et elle avait amené un petit arbre généalogique qu'elle avait fait, qu'elle m'a montré. Mmh. Voilà, où on voyait effectivement le lien de parenté. Et sa maman, à elle, à cette jeune fille, m'a raconté que dans sa famille, c'était... Tabou, personne ne parlait, quoi. Enfin, d'elle, c'était vraiment le secret de famille, la honte de la famille, enfin voilà. Quand elle avait essayé une fois d'en parler, elle racontait avec son frère, on lui a dit « Non, c'est bon, tu n'abordes pas le sujet.
Ah » ouais.
Voilà. Et c'était... Jean-Luc Seigle m'avait raconté aussi que quand il était en signature pour ce roman, un jour, il s'était retrouvé face à un homme qui était, je crois, un petit-neveu ou quelque chose comme ça, puisqu'elle, elle n'a pas eu d'enfant.
Mmh.
Et qui lui avait dit, mais c'est incroyable, comment vous avez su ça, comment vous avez su ça, etc. C'est des détails, quoi, de sa vie.
Mmh.
Et il lui a dit, mais en fait, je ne savais pas. Et en fait, il se trouve qu'en imaginant les choses...
Il a touché plusieurs
heures. Oui. Ouais. À plusieurs reprises, et ça, je trouve ça vraiment magique, quoi.
Oui,
parce que ça veut dire qu'il était, enfin, après, on peut y croire, ne pas y croire, mais il était à ce point-là investi, dans sa pensée, dans ses émotions, que des fois, voilà, il était tombé pile poil, quoi, sur une chose qu'elle aimait, ou autre chose. Et le monsieur qui était venu le voir était complètement, complètement surpris. Il se demandait où il avait eu ses renseignements. C'était assez incroyable, quoi. Et ce qu'il faut dire aussi, parce qu'on parle d'une histoire qui est un peu datée, mais il y a une chose que je voudrais dire vraiment, c'est que ce livre, il a eu aussi le prix des lycéennes.
Ah oui.
C'est-à-dire, on peut se dire, c'est une histoire des années 50, des années 60, mais il a eu le prix des lycéennes, je crois que c'était en 2016, le Grand Prix L des lycéennes, ce qui veut dire que les jeunes filles, maintenant, sont extrêmement... touchée,
oui, bien sûr.
Par,
elles se sentent concernées,
mais complètement.
Mais c'est normal.
Voilà.
Parce que quand même, même si c'est du passé, ça veut dire que leurs aïeuls, même si c'est pas leurs aïeuls, ça s'appelle pas toute Pauline Dubuisson, leurs aïeuls ont pu connaître des situations, et puis ça remonte très très loin. Mais,
oui,
mais bien sûr, ça nous touche parce que il y a une chaîne quand même. Y a
Je crois pas seulement leurs aïeuls, elles-mêmes. Je pense qu'il y a des choses qui résonnent complètement pour elles, quoi.
Oui, mais je veux dire que ça résonne pour elles
aujourd'hui.
Oui, ouais. bien sûr.
Et pas seulement, je crois, de la mémoire familiale ou du passé, mais je pense qu'elles vivent des situations, alors même si c'est pas exactement ça, qui les ramène à des situations ou d'humiliation ou de violence, etc.
Oui, oui, c'est
qui
sûr.
Qui sont encore très très courantes de nos jours, on se bat contre, etc., mais qui sont encore très courantes, et ça leur parle.
Donc, c'est certain. Oui.
Apparemment, ça leur parle complètement. Et lui, Jean-Luc, il a été surpris de ce prix-là. Et
c'était les lycéennes ou les lycéens?
Les lycéennes.
Ah.
Parce que c'est Elle, en fait, le journal Elle qui organise ça. Donc
d'accord.
Il avait le Grand Prix d'électrices de Elle et le Grand Prix des lycéennes. Bon. Et là, il me dit, ah ben alors là, je ne m'y attendais pas. Et il était très heureux de ça. Et il y a eu beaucoup de jeunes filles parce qu'il a vraiment sillonné la France dans les librairies, un peu partout avec ce roman. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui sont venues le voir pour lui parler du roman. Et ça, c'est quelque chose qui lui a fait très, très plaisir et qui l'a beaucoup touché. Ouais.
Mais tant mieux, hein. Ouais. Non, mais c'est, vous l'avez connu, vous, Jean-Luc Seigle.
On l'a connu, on avait ce, voilà, ce projet, ce rêve d'aller ensemble à Essaouira pour le jouer. Et voilà, ça restera le gros regret, même si je suis tellement contente de jouer ce spectacle, c'est de pas, voilà, avoir réussi. Mais chaque soir, il est avec moi à Essaouira, il est là.
Ça doit être une belle ville,
Essaouira. Ah, c'est très beau, c'est une ville, avec des petites fortifications, l'océan tape très fort, il y a beaucoup de vent, on entend beaucoup les mouettes. Enfin, c'est une ville comme ça, où il y a un côté qui tape quoi, contre la ville. C'est très joli à l'intérieur. Les gens sont adorables, évidemment. Et puis, mais ça a servi de décor, je ne dis pas de bêtises, au film d'Orson Welles, je crois que c'était Othello, il me semble. Faudrait vérifier, mais je crois que c'est ça. C'est, parce qu'il y a ces fortifications, puis ces espèces de ruelles étroites le long des fortifications. Ouais. Et y a, je trouve qu'il y a une ambiance assez magnifique, quoi. C'est vraiment une petite ville, voilà, avec des super ruelles. C'est très, très coloré. En même temps, ça n'a pas complètement, je trouve... Alors, peut-être l'été, c'est pas pareil. Moi, j'étais allée hors saison, mais ça n'a pas le côté carte postale, voilà, mm-hmm. Très joli. Et puis, il y a surtout, je trouve, la présence des éléments qui est très forte, quoi.
Ah oui, il y a la mer.
Le vent.
Oui.
Et comme je dis au départ aussi, il y a des chats, mais il y a des chats plein les rues. Il y a des centaines de chats partout. Puis les gens, ils alignent des petites écuelles et ils les nourrissent dans la rue. Ça. Donc, des fois, il y a des espèces d'enfilades comme ça, où on voit tous les chats qui sont en train de manger dans les petites ruelles avec leurs petites écuelles. Enfin, je sais pas, il y a un truc très particulier dans cette ville qui est très beau.
Ah, oui.
Il y a des barques très bleues, voilà, d'un bleu incroyable, les barques des pêcheurs. Enfin, voilà, c'est une ville, comme elle le dit au début, avec une lumière, des couleurs, des odeurs. Enfin, voilà, ça fait vraiment appel à tous les sens. Et je pense que le fait d'avoir été là-bas, parce que j'avais envie d'être un peu dans ses pas, ça m'a beaucoup nourrie aussi au moment où je pensais à Essaouira. J'entends, oui, les mouettes, c'est les mouettes de là-bas. On les a ramenées de là-bas. Le son, on l'a ramené de là-bas. Quoi.
Oui,
les voix des femmes, on les a ramenées de là-bas. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de plonger, et moi aussi qui me permet de plonger dans cet univers.
Ah oui. Ben oui, c'est vrai, je te conseille, Anne, vraiment d'aller voir le spectacle.
C'est jusqu'au 19 octobre, et c'est les... Ben, du coup, j'en profite pour dire quel jour c'est.
Ben oui.
C'est les mardis et jeudis à 21h, les samedis à 20h, et il y a une relâche le 3 octobre, et il y a deux séances supplémentaires l'après-midi, pour les gens qui ne voudraient pas venir le soir, les 5 et 12 octobre à 14h30.
D'accord.
Voilà.
Et l'adresse, alors
c'est... Et l'adresse, c'est 2 bis, passage Ruelle, dans le 18e, c'est au métro La Chapelle.
Ou Marc Stormois.
Voilà, si vous voulez.
Oui.
Et ce soir, si je peux... j'en profite.
Hein.
Il y a un bord plateau avec Monique Dantal, qui a créé le réseau féministe Rupture. Donc, je joue à 20h. Et après, elle sera là et on pourra aussi traverser un petit peu l'histoire des femmes, ce que ça nous évoque aussi, comme on l'a fait un petit peu aujourd'hui, à quoi ça nous ramène, cette histoire-là. Le 30 septembre, ça sera aussi très intéressant parce que il y aura Patrice Hoffman, qui est l'éditeur de Jean-Luc Seigle et qui est aussi son ami d'enfance.
Oui.
Et donc qui, lui, a été présent pendant tout le moment où Jean-Luc Seigle a écrit, à toutes les étapes de l'écriture.
Oui.
On en avait parlé une fois et c'est passionnant la façon dont il raconte comment petit à petit il est arrivé à l'écrire à la première personne, ce qui n'était pas une évidence au départ, et c'est super intéressant quand il en parle. Voilà, ça c'est le 30 septembre, je crois que j'ai tout dit là.
Ah oui, oui, oui.
Et vous êtes professeur aussi.
Oui, c'est gentil. oui, je suis professeur au Théâtre du Lucernaire. Voilà, je donne des cours à l'école professionnelle du Lucernaire et aussi des cours amateurs. Voilà, tous les lundis soirs, au Lucernaire.
Très bien.
Ah bah c'est bien.
Merci. Voilà, je crois.
Merci beaucoup, Sylvie Van Cleven.
Merci à vous.
J'espère que le spectacle aura le succès qu'il mérite, hein, parce que c'est vraiment un beau spectacle et bon, c'est vraiment, on fait la rencontre avec une personne, une interprète attachante, parfois bouleversante, mais et puis c'est un spectacle aussi qui est poétique aussi, qui est sensible, qui n'est pas, comme je disais, dans le pathos, on n'en ressort pas sombre, le cafard, non. On peut même sourire en sortant du spectacle.
Oui, oui. Je pense que sa force de vie peut être un petit peu inspirante. Ça serait bien.
On va peut-être faire une petite parenthèse avec Monsieur Blanche. Voilà.
La larme à l'œil portant le deuil, il y a des chagrins qui font le pied de grue devant ma porte. Chagrins anciens dont je sais bien qu'ils ont des mains en piège à glu des fois que je sorte. Pour mal payer, pour me draguer à l'imparfait, ou souviens-toi à la détresse. Te parodiant, pauvre Lélian, dis... Qu'as-tu fait, toi, que voilà de ma jeunesse? Quand le passé s'est bien cassé, tu peux toujours, ma pauvre frangine, chauffer la colle. Je connais la vie, je n'ai plus envie de refaire un tour au cours de spleen de mon école. École du soir, du désespoir, j'y suis passé. Je suis bachelier, j'ai mon diplôme. Et comme la mer... Sans être aimé, j'ai fracassé les vieux voiliers et leurs fantômes. On est copains depuis Saint-Germain, dit l'inconnu qui vient à toi et qui m'embrasse. Ah, en ajoutant, ça fait 30 ans qu'on s'était vu. Mais autrefois, t'avais de la classe. Des dents de loup, des cheveux fous quand tu chantais. T'étais le plus beau des libertaires. Oh, t'as changé. Y a du danger à fréquenter Arthur Rimbaud et Baudelaire. Allez, chagrin. Je n'y peux rien. Faut transhumer vers les brouillards de solitude. Tous en troupeau. Seul. Sans sa peau. Faut s'assumer. Comme le noir, sa négritude. Et la pitié en amitié ou en amour, ça n'a jamais sauvé personne. Ni cette croix sur cette croix. Mon sang velours, tout ce que j'ai, je te le donne. La larme à l'œil, portant le deuil, les vieux chagrins s'en sont allés au vent d'automne. Jean-Roger Cossimon, merci.
Et voilà, comme d'habitude, c'était le petit cadeau de Jean-Marie. On va quand même causer théâtre.
Oh oui, pourquoi
quelques
pas.
Quelques pièces à recommander.
Bien sûr, bonjour à tous. Alors oui, je rappelle aussi l'amie Isabelle Sprung qui joue Sarah Bernard. Les vendredis, samedi, donc ce soir aussi à 20h30, et le dimanche à 16h30, je crois, Evelyne, Isabelle, au guichet Montparnasse.
Le dimanche, si c'est à 16h30, attends, je vais te dire ça.
C'est un seul en scène extraordinaire aussi. Elle interprète très très bien la grande Sarah Bernard. Elle est très drôle. J'en profite aussi pour faire un sympathique coucou à Fabien qui était là aussi samedi dernier. Donc Isabelle Sprung au guichet Montparnasse. Je vais vous parler du spectacle que j'ai vu lundi avec Mademoiselle Judith Magre, 96 ans, qui lit des textes de Sylvain Tesson. Alors bon, c'est encore une grande dame hein, du théâtre. De toute façon, elle est merveilleuse. Elle est toujours bien pomponnée, super. Et puis elle a une bonne diction. Elle sait très bien dire ses textes. Hein. Et comme Sylvain Tesson est un ami à elle aussi, donc elle lit trois nouvelles de Sylvain Tesson, dont la première est assez drôle, c'est La Gouttière. C'est l'histoire toute bête d'un monsieur qui se fait surprendre par le mari de sa maîtresse. Il escalade la gouttière et puis se casse la figure. Voilà. Donc il y avait celle-là. Il y avait la deuxième nouvelle est très triste et très d'actualité. C'est sur les migrants. C'est sur l'exil. C'est une très belle nouvelle aussi. Et la troisième nouvelle, c'est sûr, je ne sais plus. D'ailleurs, bravo Anne. Ce n'est pas Alzheimer, mais bon. Voilà, je suis désolée. Mais enfin bon, c'est donc un
spectacle. Oui, il y a le troisième, oui. C'est pareil, ça m'est passé par là.
Voilà, c'est les deux premières qui m'ont bien plu. Mais la Gouttière et puis l'autre qui s'appelle L'Exil. Et c'est tous les lundis au Poche Montparnasse à 19h, pardon, 19h. Et après, nous avons enchaîné avec Dame Evelyne pour Eurydice de Jean Anouilh à 21h. Donc Eurydice, c'est aussi tous les lundis à 21h. Eurydice de Jean Anouilh, c'est donc d'après la légende d'Orphée Eurydice. Et Jean Anouilh a écrit cette pièce en 1942 pour sa femme, d'ailleurs, Monelle Valentin, qui jouait Eurydice. Et c'est aussi les amours compliqués, des amours un peu ambigus aussi. Ah. Voilà. Et donc, c'est aussi un spectacle, un fort joli spectacle, qui est interprété donc, tous les lundis à 21h au Poche Montparnasse, que je vous conseille vivement. Donc c'est une troupe de comédiens ambulants, ils ont pas très très beaucoup de talent, on peut pas dire ça. Mais donc Eurydice bien rencontre Orphée et leur histoire d'amour va commencer, et une histoire d'amour qui finit mal, comme dirait l'autre dans la chanson. Il y a celle-ci que j'ai, donc ces deux pièces qui sont très bien aux poches. Et puis, on a vu... qu'est-ce qu'on a vu mardi? J'ai rien vu.
On a vu Service public.
Service public. Oui, ben on l'avait, oui, on en avait parlé l'autre fois. Service public est très drôle. C'est une joyeuse pochade, moi, je dirais. Une bonne comédie, une bonne pochade.
Moi.
Et puis, on a vu quoi? On a vu Andromaque, donc, qui pour moi est joué un petit peu façon un peu cirque, si on veut. Mais très très dynamique, hein. C'est pas Andromaque qui est toujours en train de pleurnicher, tout ça. Hermione est très très panthère, très tigresse. Et puis, eh ben, pour l'instant, moi, j'en suis là. Bah, si tu as vu, toi, Olympe de Gouges, que moi j'avais vu à Avignon. Olympe de Gouges au Lucernaire, c'est un seul en scène avec Céline Montsara.
Bah, oui. Olympe de Gouges par Céline Montsara. Oh ben c'est alors le titre même de la pièce c'est plus vivante que jamais, oui. Olympe de Gouges. Bon, on connaît un petit peu l'histoire d'Olympe de Gouges, hein. Donc oui. Là dans le spectacle elle se retrouve, on la voit dans un cachot, hein, juste avant, quelques jours avant qu'elle soit guillotinée, et donc elle raconte un peu sa vie, mais elle est très elle est pas triste, hein.
Il y a des choses qui sont très drôles parce qu'elle raconte son enfance, son mariage aussi.
Oui, c'est ça.
C'était marrant d'ailleurs, assez drôle. Et puis elle raconte les idées qu'elle a eues pour les femmes qui sont très innovatrices pour l'époque, je trouve.
Oui, mais elle était visionnaire, hein,
Oui. On parle, bon, c'est vrai que c'est la grande. C'est la grande copine de tout le monde, Olympe de Gouges, parce qu'il y a une autre dame de la Révolution française qui s'appelait Théroigne de Méricourt, mais elle a terminé un peu folle dingo, malheureusement, donc on en parle un peu moins, mais c'est à peu près le même genre qu'Olympe. Et alors, Céline Montsard,
c'est un bon spectacle.
Elle joue très bien, et je la connais d'autant plus que c'est une ancienne copine du cours de théâtre où j'ai il y a 40 ans au moins.
Voilà. Ah d'accord. Non, c'est très intéressant. Ça donne envie un peu de lire les écrits d'Olympe de Gouges, oui. Hein, parce qu'apparemment elle a beaucoup écrit cette dame. C'est quand même, c'est assez extraordinaire, hein, toutes les idées de... qu'elle avait pour les femmes, et puis quand même ce courage, hein, d'aller à la guillotine, alors que finalement elle a été guillotinée parce qu'elle a fait face à ses juges, hein.
Oui,
parce qu'elle leur a tenu face, hein. Elle aurait pu un peu se mettre en retrait, bon, etc. Non, au contraire, elle les a pas injuriés, mais elle les a mis au tapis, enfin bon, donc les hommes ils aiment pas ça.
Et la chose aussi qui la touche, qui l'a vraiment aussi bouleversée, elle, à la limite, monter à l'échafaud, d'accord, mais c'est surtout d'avoir été abandonnée par son fils. Son fils qui l'a quand même...
Ben ça, on le dit, hein. Est-ce que c'est bien vrai, ça? Ben bon. Oui, elle a été abandonnée,
reniée par son fils. Bon, peut-être qu'il avait aussi la trouille aussi.
Ben, c'est-à-dire qu'il faisait une carrière de militaire. À cette époque-là, tout le monde avait peur, hein. Oui. C'est la terreur, hein. Donc, voilà, hein, bon... Mourir pour des idées, voilà.
Et ben c'est tout. Ce que j'ai
alors on va parler juste 3 minutes des blattes, hein, parce que nos invités hélas ne sont pas arrivés.
Ben, c'est peut-être un coup de fly talk, ça, tu sais.
Non, c'est pas ça, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des problèmes de métro, ceci, cela. La nostalgie des blattes.
Oui.
Bon, si elles peuvent pas venir aujourd'hui, peut-être que Monsieur Moa pourra les inviter, on sait jamais. Mm-hmm. Hein. Alors, je suis un peu fatiguée, là, mais enfin, bon, je vais quand même parler de ces dames. Ce sont des dames, moi, c'est imaginé par Pierre Note. Hein. Alors, Pierre Note, il a imaginé qu'on était dans un monde aseptisé. Donc, dans ce monde aseptisé, la brigade sanitaire passe sans arrêt. Donc, il n'y a pas de blattes. La vieillesse n'existe... les femmes qui sont vieilles, elles ne se montrent pas. Elles sont toutes botoxées. C'est vrai, hein ? Elles sont botoxées. Voilà. On leur refait la face, liposuction, etc.
Et en plus, elles sont...
Et donc... finalement, les personnes âgées, on n'en voit plus. Et celles qui ont résisté au Botox sont devenues des objets
elles sont exposées.
Extraordinaires. Voilà, elles sont alors exposées. Elles s'exposent pour montrer ce que c'est que la vieillesse. Elles sont chacune scotchées sur leur banc. Et il se trouve que maintenant, il n'y a plus de spectateurs ni de spectatrices pour ce genre de spectacle. Personne ne veut plus voir les vieux ni les vieilles. Alors... elles attendent sur leur banc et elles devisent, elles racontent et puis elles chipotent aussi. Ah parce oui. que comme elles sont contraintes d'être assises l'une à côté de l'autre, voilà. elles disent mais toi tu sens pas bon, ouais, mais toi oui. À cause de toi j'ai de l'eczéma. Enfin bref, ce sont des vrais chippies. Hein, des vrais chippies. Et puis au fur et à mesure, comme elles évoquent des souvenirs communs.
Elles sympathisent, pour pas dire.
Voilà, elles finissent par sympathiser. Mmh. Elles se rappellent. Et puis, elles évoquent les souvenirs. Quand l'une était danseuse, l'autre comédienne, chanteuse. Et finalement, mais elles sont sympathiques, ces deux vieilles. Hein. Mais elles n'ont pas honte de montrer leur bourrelet, de montrer que, bon, ben, elles ne sont pas toutes jeunes. Hein. Et moi, je trouve ça bien. J'ai bien aimé ce genre de spectacle parce que je trouve que. On n'a pas forcément envie de montrer. C'est vrai que vieillir, c'est pas bon. Mais en même temps, il faut assumer. Il faut assumer. Il y a pas de honte à avoir vieilli. Franchement, moi c'est ça. Moi ça m'a donné la pêche. Je me suis dit, elles n'ont pas honte de ce qu'elles sont. Elles se montrent. Et en plus, sur scène, elles sont rigolotes.
Oui, oui, c'est vrai.
Hein? Elles ont la pêche.
Oui, oui, elles chantent.
Alors, pour moi, c'est comme une sorte de louange à la vieillesse. Enfin, je veux dire, c'est, la vieillesse, bon, d'accord, physiquement, on est moins jolie que quand on était jeune. Mais c'est pas ça qui compte. C'est l'esprit. La jeunesse n'a pas d'âge. Hein? C'est l'esprit qui compte, hein, n'est-ce
exactement.
Pas, moi ?
Absolument.
Hein?
Voilà. Et eh bien, sur ce.
Je vous laisse.
Oui. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais de ce pas au théâtre.
Très bien.
Enchaîner.
Voilà.
Merci beaucoup.
Et si vous voulez que je vous envoie le podcast de l'émission.
Donnez-moi
votre mail. Voilà.
Oui, super.
Voilà. Alors, Moa, raconte-nous.
Bonjour, Moa.
Bonjour, bonjour. Comment va ?
Ça va, Thi, ça va.
On serre la main. Bah, écoute. Là. Oui, il y a un problème.
Un crayon ? Ah, d'accord, parfait.
Oui, c'est bon ?
Oui.
Oui. Ben, écoute, moi, je voulais juste signaler que j'ai un invité la prochaine fois à propos du théâtre Le Rhin de Lag. Ah. Le Rhin de Lag, et donc, c'est Monsieur Tristan Ledose. Tristan Ledose, voilà, qui a dirigé et mis en scène la pièce... L'antichambre.
Ah oui, je vais la voir bientôt cette pièce.
Voilà, l'antichambre de Jean-Claude Briseville.
Oui.
Jean-Claude Briseville. Et donc c'est assez intéressant. Et je lui ai proposé de venir donc en parler.
Bah oui, très
de toutes les façons, quoi. Et voilà. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. La bon. Compagnie, création de l'antichambre. De l'antichambre, Bagnolet. Production Charivari de mots, collectif musical autour des textes de La Fontaine, Reza, Nougaro, Molière, production audiovisuelle de Ça sent le sapin de Pessière, mise en scène, production subventionnée par Les Pays de la Loire, à Lyonor, et Femmes de pouvoir, voilà, de Jean-Claude Boulard. Voilà, voilà, voilà. Et sinon, j'ai assisté également à, comment on appelle ça, à une sorte de festival qui s'appelle le Festival à propulsion poétique, voilà, qui s'appelle le Nautil Art. Nautil Art, voilà, donc 2 jours de voyage de la Seine au fragile océan, au pavillon des transitions. Voilà, il y a tout un programme des conférences. Nautil Art, un festival artistique, ami de la science et de l'histoire. Voilà, c'est le pavillon des transitions. Le lieu dédié à tous les publics est gratuit. Le pavillon des transitions de la métropole Rouen-Normande propose de faire comprendre les enjeux écologiques afin d'avoir les moyens d'agir au quotidien, connaître donc pour agir. Donc il y a une sorte de biodiversité, protection des ressources, réemploi, réduction des déchets. Le pavillon des transitions aborde donc tous les sujets de la protection de l'environnement et de l'adaptation de notre territoire et de ses enjeux. Voilà, donc ça s'appelle le Nautil Art, un festival artistique ami de la science et de l'histoire qui se passe à Rouen, forcément. Donc ça m'a l'air assez intéressant. Et donc c'est à partir du 8 septembre, 8, 9, 10 septembre. Donc ça vaut le coup de s'y intéresser. La marraine étant Dominique Leglu, directrice éditoriale de Science et Avenir, la recherche. Voilà. Et des dessins en direct, carte blanche par Eric Elio, illustrateur. Et puis il y a la fresque océane, entrée libre. Mini-jeu pour comprendre l'océan avec Léna Treut, formatrice et environnement. Voilà, déluge et arche en littérature contemporaine. 2 artistes plasticiens engagés pour l'océan également. Voilà, animé par Mathilde Schneider, directrice des musées, et avec Aude Bourgine, Océan fragilisé. Les œuvres poétiques éveillent le sentiment d'émerveillement par la nature. Georges Noucou et Océan de plastique. Déluge et arche en littérature contemporaine. Avec, bien sûr, Anne Simon, directrice de recherche CNRS, responsable du Centre international d'études de la philosophie française contemporaine, République des Savoirs. Voilà. Et puis, clôture festive, concert, tuba, site, sur le quai de la Seine, devant le pavillon des transitions. Donc, je pense que j'ai tout dit, ça vaut le coup d'y être. Donc, c'est à Rouen même. Voilà, 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 voilà. Transition, voilà. Et sinon, autre chose, j'avais pensé aussi à proposer à la télévision algérienne un texte de Le Corbusier qui s'appelle « Poésie sur Alger », donc concernant la ville d'Alger. Et donc il y a tout un ensemble de textes poétiques, etc., sur Alger. Et je crois que ça peut être très intéressant de pouvoir le réaliser aussi bien à Alger que dans d'autres capitales. Tout dépend des possibilités. Donc nous sommes en Afrique, ce soleil, cet espace d'azur et d'eau, ces verdures ont entouré les gestes de Salammbô, les actes de Scipion et d'Hannibal, comme Kherdin, le barbaresque, la mer, la chaîne d'Atlas et les monts de Kabylie déploient donc leur faste bleu, la terre est rouge, les végétations sont des palmiers, d'eucalyptus, de gommiers, des chênes liges, d'oliviers, de figuiers, de barbarie, des parfums de jasmin, de mimosa, du premier plan jusqu'aux confins des horizons. La symphonie est immanente. Construisant donc leur casbah, les Turcs avaient atteint aussi au chef-d'œuvre l'architecture et l'urbanisme, mais les dernières 50 années de colonisation européenne ont abouti à des richesses naturelles, avoisinantes et pétrifiées sans remords en un désert de pierrailles. La ville neuve, dont les maisons serrées se penchent sur des rues bruyantes, les habitants s'entassent sur des trottoirs de leur presque unique rue du Sli, à Alger, rue Michelet, pour s'y promener entre des murailles locatives dans un cheminement sans charme, le soir, aux heures belles, où l'air s'éteignant s'est empli de douceur, des fenêtres de leur chambre, sans quelques évadés, ils n'ont pour bis que des murailles, elles aussi percées de fenêtres. Donc voilà. Donc c'est toute une balade sur Alger, suivant la ligne des plus grandes pentes à la falaise, foulant les escaliers inlassables entre les maisons dont chaque porte alimente autant d'étages en dessous qu'au-dessus, élevés à la barbe des règlements identifiés ou par des venelles bien propres reliant, pour qui sait s'y retrouver, la mer au point culminant des versants à Fort-l'Empereur. Altitude 250 mètres, échelle de Jacob, pourtant non jolie, de l'Is du Pac à la côte 100, on traverse l'ancien chemin turc de ceinture épousant les infractuosités de la falaise de Tlemli, et puis le chemin Pouyan, la montée reprend rapide, fructueuse, riche de récompenses, l'horizon s'est ouvert, étalé, le champ de vue aux immenses, enrichissant des morceaux de mer, etc. etc. Donc ça vaut le coup vraiment que la population algérienne prenne en compte donc cette poésie de M. Le Corbusier, grand architecte, aussi bien connu en France, en Algérie, dans le monde entier. Voilà.
Merci Moa. Donc, à la semaine prochaine, Moa.
Voilà, absolument. Le 23. Donc, le 23, il y a, comment il s'appelle, donc, notre ami Tristan Ledose, qui est invité, et c'est lui qui a mis en scène la pièce de théâtre.
On sera le 23, la semaine prochaine, déjà ?
Ben oui.
Oh là là.
L'air de rien. Hein.
Voilà.
Bon. Et donc, une émission qui se termine et une autre qui va arriver. Exactement. Voilà, allez, chers auditeurs et chères auditrices, gros à bientôt.
À la revoyure.
Gros bisous.
Voilà, et dans quelques émissions de ça, on recevra Rémi Carnoche, l'homme qui a osé écrire une supposition que l'hypothèse divine est quelque fondement par lequel entrerait le suppôt de Satan, irriguant dans les muqueuses la démangeaison humaine, dessinant dans l'espace l'image d'un corps dissous par le trouble passager. S'attendrissant enfin, Dieu s'attendrait à sentir fondre en lui une prière le confirmant, suppôt de Satan, dans le cul.
Bien capté, buvoir sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar sur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby.
Ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Radio Libertaire.
T'as bien capté, bulle noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de Paula, sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4 heures,
baby.
Faut pas te tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté, bulle noire sur Libertaire,
Radio Libertaire.
On va pas.
de calibre 44.
Baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté. Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous, et bien une émission en deux parties. La première consacrée au dernier thriller de Morgan Odick, Personne ne meurt, à Longueur Bien ou Bayen, je sais pas, c'est Morgan qui va nous dire lui-même comment on prononce. J'imagine Longueur Bien.